Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Academy reçoit dans ses studios Céline Aymon, qui est codirectrice des éditions Adodane. Bonjour Céline.
Bonjour.
Et Bruno Doucet, qui est l'un de vos auteurs. Céline, Bruno Doucet, que les auditeurs de Canal Academy connaissent. Bruno Doucet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des éditions Bruno Doucet, avec tout un passé dans les éditions Segers.
Exactement.
Là, vous venez de rédiger un petit livre, donc pour les éditions Adodane, dans une collection spécifique, la collection des graines et des guides. Le titre déjà initie à la philosophie de cette collection, « Découvrir les femmes et les hommes qui ont changé le monde ». Alors, c'est une collection pour les très jeunes, entre 7 et 12 ans, et une collection qui leur propose de découvrir de grands personnages, des personnages balises, repères, exemplaires de nos civilisations. C'est un exercice auquel vous êtes habitué de vous adresser aux très jeunes, Bruno Doucet?
Aux très jeunes, non, mais j'avais écrit plusieurs romans pour la jeunesse, notamment aux éditions Actes Sud Junior. Et pour l'instant, je n'ai pratiquement écrit pour les jeunes que des romans historiques, par exemple consacrés au chanteur chilien Victor Jara ou bien à Federico Garcia Lorca, le poète espagnol. Et là, l'exercice était un peu différent. Il s'agit là encore d'un personnage réel, et non pas simplement d'un personnage de papier avec Théodore Monod, puisque c'est à lui que ce livre est consacré, mais un exercice différent parce qu'il s'agit plutôt d'une biographie. Voilà, une biographie qui est parfois la lisière du récit. Il m'est souvent arrivé d'imaginer des situations tout à fait plausibles de cet homme cheminant dans le désert. La difficulté pour moi, c'était au fond de raconter une vie qui a duré pratiquement 100 ans. Et quelle vie ? Et quel homme ?
Et en quelques pages.
Dizaines de pages.
Des dizaines de pages réunies dans ce livre aux couleurs du désert, puisqu'il est couleur de soleil, couleur de sable. Vous l'avez sous-titré « Un savant sous les étoiles ». Et alors, le texte est accompagné d'illustrations. Parlez-nous de ces illustrations, Céline Aymon. Qui les choisit ? C'est la direction des éditions Adodane ou c'est votre auteur ? Comment est-ce que ce travail se fait ?
Alors en fait, chaque livre est singulier. Donc là, c'est Bruno Doucet qui nous a amené le compagnonnage de Zahu, qui est un grand nom de l'édition jeunesse. Donc comme le livre sur Théodore Monod était parmi les premiers que nous avions le souhait d'éditer, c'était pour nous un appui considérable d'avoir cette signature. Et c'est vrai que Bruno étant ami de Zahu, ça a été beaucoup plus simple que si nous l'avions contacté de nous-mêmes.
Alors, tout de même, les consignes sont données par l'édition et la collection. Ce sont des illustrations noires et blancs, toujours. Alors, Zahu, comment a-t-il réagi à votre proposition ?
Il a été très, très content. Il se trouve qu'on a en commun un goût du désert. Il revenait d'un voyage au Maroc, donc on a eu l'occasion d'en parler un peu. Et puis, je connais son travail depuis pas mal d'années, donc je pensais qu'il était vraiment tout à fait à même de travailler autour de Théodore Monod. En revanche, Théodore Monod, il me disait « il faut que je me plonge dans son œuvre ». Alors, je me souviens être allé le voir plusieurs fois dans son atelier avec des livraisons de bouquins de Théodore Monod, de façon à ce qu'il s'immerge vraiment dans cet univers.
Alors, on vous lit Bruno Doucet, page 10 par exemple. C'est un enfant qui regarde des poissons au Jardin des Plantes,
oui,
je crois.
Oui, oui.
L'enfant se demande en bâillant « Comment cela serait si le monde n'avait pas existé ? Et y a-t-il une limite à l'infini ?» Alors là, ce petit bonhomme, il a 6 ans. Que 6 ans,
alors ça, ce n'est pas quelque chose lié à mon imagination.
D'inventer.
C'est absolument réel. Il se trouve que Théodore Monod, qui est né en 1902, on pourrait dire de lui, comme on disait de Victor Hugo, ce siècle avait 2 ans. Il se trouve que Théodore, le petit Théodore, est un enfant précoce. Un enfant surdoué. Il apprend très vite, en stupéfiant véritablement son entourage, et ses parents prennent la peine, c'est une chose que je trouve très belle, de prendre note au quotidien de la vie de leur fils. Donc ils vont, tout au long de son enfance et de son adolescence, noter, raconter, tenir un journal, le journal de Théodore, grandissant sous leurs yeux. Et donc, j'ai trouvé cette phrase dans le journal des parents. Et effectivement, il vivait rue du Cardinal Lemoine, non loin du Jardin des Plantes, où le petit Théodore allait très souvent. On l'emmenait se promener dans la roseraie. Il s'émerveillait, il retenait le nom des roses, il avait envie d'apprendre le latin pour en connaître davantage. Et puis, le soir, il avait dans sa chambre un aquarium, et un soir, il regarde, chaque soir en s'endormant, il regarde l'ombre projetée sur le mur des poissons qui nagent dans l'aquarium. C'est une image onirique qu'on imagine assez bien et qui va faire naître en lui cette réflexion sur l'infini et sur l'existence ou la non-existence de Dieu.
Alors on voit bien que l'infini nous entraîne déjà, malgré nous, dans le désert. Alors voilà. Ce désert que vous connaissez, Bruno Doucet, Zahu connaît, et que Théodore Monod, ce grand scientifique humaniste, a connu. Alors, en quelques mots, si vous pouviez aussi déclencher des vocations par rapport à ce désert, que pourriez-vous nous dire ?
De quel désert parle-t-on ?
Oui.
D'abord, est-ce que c'est le grand désert de sable, le Sahara ou d'autres régions du monde, ou est-ce que c'est le grand désert des vagues océanes, parce que la mer est un désert ? Eh bien, figurez-vous que c'est d'abord la mer.
Le désert de Théodore ?
Le désert de Théodore Monod, c'est d'abord l'océan, parce qu'il va avoir son bac à 16 ans, et il va très rapidement s'orienter vers des études scientifiques, délaissant les études de théologie auxquelles on l'avait initialement destiné. Et il va écrire une thèse de doctorat sur un petit coquillage. Et cette thèse va l'entraîner en Mauritanie, vers ces rivages très très poissonneux, sur la côte mauritanienne, pour observer en mer ou sur le rivage les espèces animales, et puis végétales aussi, ou aquatiques, qui l'intéressaient. Et Théodore, à l'âge de 22 ans, va tomber d'un désert à l'autre. Il va passer d'un infini à l'autre, passant des rivages de l'Atlantique à l'immense désert de sable qui vient mourir véritablement sur la côte mauritanienne. Et la Mauritanie va devenir ce qu'il appellera par la suite son diocèse. Notamment toute la région de l'Adrar, la région de Shingeti, où il est allé d'innombrables fois tout au long de sa vie, avec des quêtes parfois éperdues et j'allais dire presque folles, je le raconterai sans doute tout à l'heure, va véritablement être le point d'ancrage de ses premières explorations. Au point qu'aujourd'hui, en Mauritanie, j'y suis allé plusieurs fois, et notamment à Shingeti. En allant à Shingeti, on traverse une région montagneuse assez difficile qui s'appelle la passe d'Amodjar. Et là, à la sortie de ce passage rocheux, montagneux, il y a un endroit où il y a des gravures et des peintures rupestres. Moi, j'avais demandé au chauffeur du 4x4 de s'arrêter et je suis allé me promener dans les collines. Et à un moment donné, je suis tombé sur un petit berger qui ne savait sans doute probablement ni lire ni écrire, un enfant, qui m'a dit « Ah, mais il y avait un vieux monsieur qui venait il y a encore quelques années. Je te dis ça parce que c'était comme toi un Français. C'était un monsieur Théodore. » Il s'agissait évidemment de Théodore Monod.
Alors là, c'est une grande vague d'émotions qu'il doit avoir.
Tout à fait émouvant, bien entendu.
Tout à fait émouvant. Et puis, avec le sentiment que la quête que vous menez vous aussi, pour d'autres fondamentaux que notre
bien
ami
sûr,
Théodore Monod, ces quêtes peuvent se croiser.
Ah, elles se croisent. Mais le désert est fait de chemins qui se croisent. Et d'ailleurs, je dois à Théodore Monod une partie de ma passion pour le désert. Il n'est pas seul en cause dans cette histoire. Mais la lecture de Théodore Monod, notamment, a éveillé mon intérêt pour les données également scientifiques et des questions relatives, par exemple, à la désertification ou à la vie des peuples nomades.
La vie d'un Théodore Monod se déroule en essentiel dans la contemplation.
Et dans l'action. Parce que Théodore était aussi, j'allais dire, un arpenteur, chevronné et forcené. C'est quelqu'un dont la devise, c'était aussi « marche et tais-toi ». Lève-toi et marche, et surtout marche et tais-toi. Il faut imaginer cet homme, frêle, mais d'une constitution extrêmement robuste, traversant le désert dans des conditions extrêmement difficiles. Il a été, par exemple, je crois, le premier occidental à traverser le Tanezrouf, d'est en ouest, 30 ou 40 jours.
Mais à la recherche de quoi ?
De traverser une traversée dans un désert où il n'y a pas d'eau. Donc il faut amener l'eau pour tous les gens qui sont là, pour les bêtes. Et puis transporter le fourrage pour que les chameaux puissent s'alimenter. Et donc ce sont des choses tout à fait incroyables.
Mais quoi, ça tient à quoi ? À l'exploit sportif ?
Non, c'est un chercheur d'absolu. C'est un chercheur d'absolu. Vous savez, Théodore Monod est quelqu'un qui a recherché des choses tout au long de sa vie. Je vais prendre un exemple. et peut-être le plus émouvant et le plus proche de la poésie dont vous savez qu'elle m'habite. Il a recherché toute sa vie la fameuse météorite de Shingetti. Alors de quoi s'agit-il ? Au début du XXe siècle, dans les années 20 je crois, un officier français, Gaston Rupert, revient très exalté de la Drar, où il avait probablement effectué une mission de reconnaissance. Il arrive en disant « Regardez ce que je viens de trouver, un morceau de météorite tombé du ciel, je l'ai dans la main. Voyez cette météorite ? Eh bien, je l'ai extraite, elle était à côté d'une météorite géante, plus grande qu'un immeuble parisien en plein désert tombé du ciel. » Les scientifiques du monde entier vont s'intéresser à cette fameuse météorite de Shingetti. Ils vont la rechercher. Théodore Monod, dès qu'il sera en âge de partir dans cette région, va y aller seul et puis dans des expéditions organisées, ne la trouvant pas. Et à la fin de sa vie, dans les années 85-86, il est mort en 2000, donc c'était déjà, né en 1902, un vieux monsieur, n'est-ce pas ? Eh bien, il lit le rapport d'un officier français, un aviateur français qui survole la Drar et qu'il dit et qui signale qu'il a observé à très basse altitude des choses tout à fait étranges, une vaste dépression miroitante au soleil, comme s'il y avait sous la surface poudreuse du sable quelque chose d'étrange. Théodore Monod tombe sur ce rapport et il se dit « C'est peut-être cette fameuse météorite de Shingetti que je n'ai pas complètement ensablée dans ma mémoire. » Il va organiser une première expédition à plus de 80 ans, avec des scientifiques, donc c'est une lourde organisation que de mettre en place ce type d'expédition, ils ne la trouveront pas. Et quelques années plus tard, à près de 90 ans, il va repartir. Il va repartir pour une expédition plus approfondie, avant de perdre la vue, puisqu'il finira sa vie aveugle. Et là, que se passe-t-il ? Il découvre en fait que cette espèce de dépression que l'aviateur français a observée, c'est les restes d'un ancien lac lacustre. L'eau s'est retirée, laissant ce qu'on appelle des chottes, qui sont des zones où le sel affleure. Et ce miroitement est celui du sel. Quant à la météorite de Shingetti, il la trouvera et ne la trouvera pas, puisqu'il va découvrir une énorme montagne de grès, effectivement grande comme un immeuble parisien, qui probablement était cachée sous une dune, mais vous savez que dans le désert, les dunes se déplacent. Des dunes de 200 mètres de haut peuvent se déplacer, laissant apparaître parfois des réalités rocheuses que l'on n'avait encore jamais vu, parfois depuis plusieurs siècles ou plusieurs milliers d'années. Et donc, cette fameuse météorite n'est autre qu'un énorme bloc de grès, et le grès, effectivement, scintille au soleil. Voilà, fin de l'histoire. Il écrira un livre, un de ses derniers livres, qui s'appelle « Le fer de Dieu ». Et ce livre se termine par une réflexion sur la nécessité pour nous, êtres humains, d'être en quête. Le fait que rechercher est plus important que trouver. Et qu'il y a là une poésie du monde dont les hommes feraient bien de toujours conserver la leçon. Donc c'est un très beau texte qui se termine, en réalité, non pas par une apologie de la science, mais par une évocation de la poésie et du rapport au monde.
Le fer de Dieu, vous l'écrivez comment, Bruno Doucet ?
F-E-R.
F-E-R.
Mais voilà, la question est pertinente et on l'entend des deux manières.
Bruno Doucet, quelle est votre météorite de Shingetti que vous avez recherchée, vous aussi, dans le désert ? Qu'est-ce que vous recherchez
dans le
désert ?
Je ne sais pas. En réalité, j'y suis allé souvent. Je continue à y aller quand je le peux. J'ai écrit pas mal de livres. J'ai même écrit ce gros livre des déserts, 1500 pages. Enfin, bon, c'était aussi une expédition intellectuelle avec d'autres et des spécialistes. Et quand j'ai écrit ce livre, c'était 5 ans de travail, je n'avais pas compris réellement ce qui était à l'origine de ma passion.
C'est une passion, donc, le désert.
Oui, c'est une passion, c'est une brûlure aussi, je dirais. Et ce qui est à l'origine, ce sont des photographies que j'ai découvertes dans l'enfance, lorsque j'étais tout petit garçon. Des photographies prises par un de mes ancêtres, mort en 1900 dans le Grand Sud algérien. Il était parti comme capitaine de l'armée française, responsable de la mission topographique, sabre au clair, sabre en main pour conquérir. Et en réalité, c'est lui qui a été conquis. Et le désert est devenu désir. Et je dirais même plus tentation de la désertion. Il n'aura pas le temps de déserter, d'abandonner la mission civilisatrice de l'Occident pour une autre approche de la vie et du rapport aux autres, puisqu'il sera tué d'une balle en plein cœur à 30 ans en plein désert. Donc je suis parti sur ces traces et il m'a fallu attendre moi de longues années avant de comprendre que ces petites photographies sur plaques de verre que je regardais enfant dans un appareil binoculaire avaient, je crois, donné un axe, un sens à ma vie, à la fois dans la réflexion sur l'histoire et ce qui me semble être l'horreur de la colonisation, Et puis en même temps, dans cette approche de territoire où l'incandescence nous appelle au voyage.
Vous devez faire de très beaux voyages, Céline Aymon, en collaborant avec tous ces auteurs différents, car chacun de vos livres, Des graines et des guides, porte la signature d'un auteur différent.
Oui, effectivement, le parti pris de cette collection, c'est de confier à un poète, la plupart du temps, la présentation d'un personnage qui, pour lui, a été fondamental.
Un poète, dites-vous.
Souvent, on demande à un poète de transcrire, de transmettre, de donner des petites touches comme ça de la vie d'une personne qui a eu un parcours emblématique au XXe siècle. Parfois au second plan, qu'on connaît mal du point de vue du grand public, mais qui néanmoins laisse des traces importantes et qui peuvent être porteurs d'utopie pour des jeunes lecteurs.
Oui, donc vous attirez ce poète vers un exercice qui n'est pas le sien.
Oui, exactement, puisque le texte, comme vous l'avez dit, n'est pas en vers.
Il est en prose.
C'est une prose narrative. On n'est pas dans une biographie intégrale, ni chronologique
non,
d'ailleurs.
Non, c'est du subjectif. Hein.
Voilà, c'est le point de vue du poète sur la vie de cette personne. Et donc, on est dans un rapport extrêmement sensible, en fait, au personnage. On n'est pas, à travers cette collection, on n'est pas dans un travail marchand, je dirais, de voilà, la biographie, un outil pédagogique de A à Z.
On dépasse le domaine des connaissances.
Oui, on est dans cet état d'esprit où, voilà, si on prend par exemple Viviane Lofiego, qui a écrit sur Isadora Duncan, la danseuse, pour elle, c'est un personnage qui l'a marqué profondément, qui l'accompagne encore aujourd'hui dans son travail, dans sa réflexion. Alors ça ne se perçoit pas tout le temps dans son travail, mais en tout cas, voilà, elle nous l'a confié comme ça. Ou Bruno Doucet, c'était naturel d'aller vers lui pour lui demander un personnage sur les déserts. Bon, Théodore Monod est arrivé très vite comme sujet. C'est une carte blanche.
Mais alors la question de cette carte blanche, c'est le pourquoi, la philosophie qui se rattache à tout ça, le pourquoi de cette démarche.
Elle est originale sur le terrain de la littérature jeunesse. Je pense qu'il y a quelques autres collections qui font un très beau travail aussi pour faire connaître des parcours. Bruno en a cité quelques-unes. La nôtre se situe en fait à la frontière entre l'imaginaire et l'ouverture des possibles. C'est-à-dire que quand on est un enfant qui commence à démarrer une lecture seule, c'est-à-dire entre 7 et 12 ans, voilà, on a cette possibilité de choisir ses propres ouvrages, d'avoir la curiosité de dépasser ce qu'on nous impose à l'école. On se dit, bah tiens, si j'allais lire un petit peu plus ce que François Truffaut a fait, comment il était enfant, etc. Et on se découvre que finalement, les époques changent, le contexte change, mais les relations les uns aux autres est parfois la même quand on est enfant. Donc l'idée, c'était voilà, de proposer des parcours de vie vus par des poètes.
Bruno Doucet, vous dédiez cet ouvrage consacré à Théodore Monod, oui, à Noé. Ce livre que lui liront Victor et Juline, qui sont
ah si oui, charmants. Ce sont des enfants. Alors, Noé, il avait 4 ans quand j'ai écrit ce livre. Et puis, Victor et Juline, ce sont ses frères et sœurs, plus âgés, qui savent déjà lire. Je voulais dire par là, évidemment, je voulais adresser ce livre à un enfant que j'aime et à ses frères et sœurs. Mais en même temps, dire, voilà, nous avons besoin du passage. Soyez déjà, vous, Victor et Juline, qui avez une dizaine d'années, des passeurs d'émotions, de culture, comme je cherche à le faire et comme le fait cette collection des graines et des guides. Et vous remarquerez que Théodore Monod est un guide pour l'humanité. C'est un passeur d'espérance, mais c'est aussi un guide au sens propre. Pour aller dans le désert, on a besoin d'un guide. Et il y a dans le désert des graines qui sommeillent dans le sable, parfois des siècles, même davantage, attendant la pluie qui viendra les faire éclore. Et je crois que la littérature et une collection comme celle-ci, c'est ça. Voilà, chaque livre est en attente de son lecteur.
Et chacun des jeunes lecteurs et chacun des jeunes garçons et des jeunes filles, des générations futures, peuvent eux aussi partir explorer oui, et oui, être de grands découvreurs.
Absolument. Et j'ai vu aussi, dans les rencontres, que les adultes aiment ces collections. Des mamans qui viennent acheter le livre pour un enfant reviennent en disant « Je le voudrais moi aussi avec une dédicace pour moi ».
C'est un échange magnifique entre voilà, famille et enfant.
Mais c'est ça la littérature.
Merci Bruno Doucet, merci Céline Aymon.
Merci à vous.